C'est simplement des petits cartons rouges pour dire bon, bah non, ça suffit, carton rouge, Kabila, on ne te veut plus au pouvoir, il faudrait peut-être changer. Les rues étaient plutôt désertes dans la ville, les commerces fermés, etc. Donc, dans une ville de 12 millions d'habitants. Et finalement, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est bien ça. L'élection présidentielle est repoussée à avril 2018. Alors, la cause qui est invoquée, c'est une cause d'ordre logistique et financière. Certains dirigeants de l'opposition ont accepté très facilement en fait, cette décision. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui va dans ce sens-là. Et en fait, tout ce qu'on peut se dire à l'heure actuelle, c'est que finalement, peut-être qu'il y a la crainte d'une nouvelle guerre civile qui pourrait arriver, sachant que le Congo-Kinshasa, on a connu une de 96 à 2003. Mais on sait en tout cas que les opposants ne comptent pas en rester là et ils aimeraient bien en fait générer une situation un peu comme ça s'est passé au Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré en fait a été déchu en 2014 et du coup pourquoi pas faire la même chose au Congo Kinshasa. Donc affaire à suivre, on verra bien, hein. C'était aujourd'hui la fin du mandat à 23h59. Bon, peut-être que d'ici quelques heures il va se passer quelque chose de phénoménal.
Peut-être qu'il va se passer quelque chose aussi en Algérie, puisqu'il y a des militants syndicalistes indépendants, des assos, des membres de partis politiques, mais en façon indépendante, qui lancent une grève et sous un nouveau mode, c'est-à-dire un mode un peu original. En fait, ils proposent de rester chez soi pendant 5 jours, donc du 2 au 7 janvier. On propose aux gens de faire la politique de la chaise vide au boulot, de ne pas aller au boulot, de ne pas aller à l'école ni à l'université, et de désaffecter les cafés, les commerces, les souks. Donc essayer de faire mourir le pays pendant 5 jours. 5 jours, c'est quand même une petite semaine. Et tout ça sous une seule revendication, non à la politique d'austérité imposée par le gouvernement en place, et son monde, bien sûr, comme toujours. Et on peut lire sur les réseaux sociaux les matraques, tirs à balles réelles, arrestations, emprisonnement arbitraire, exécution sommaire, c'est fini. Nous ne sortirons pas dans la rue, nous resterons gentiment au chaud chez nous. Voilà. Et donc, c'est une façon aussi de répondre à une terrible répression qui a lieu en Algérie. Et on souhaite bon courage à ces grévistes et puis de bien prendre du plaisir à rester chez eux et pas aller au boulot.
Alors, dans le Maghreb, toujours à l'ancienne Carthage, à l'ancienne Albanina, l'ancien siège des Fatimides, en Tunisie, la belle Tunisie. Eh bien, jeudi, dans l'Est, à Sfax, un certain Mohamed Zouhari, de 49 ans, et qui a été décrit comme un dirigeant du mouvement islamiste et qui était spécialisé dans le développement de drones, a été assassiné. Donc, dimanche, le gouvernement tunisien il a dénoncé des éléments étrangers et le Hamas a lui attribué l'assassinat à l'État d'Israël. Donc toutes les huiles du pays, du coup, ils s'inquiètent à cause de l'agitation quotidienne, des luttes internes, des clivages et querelles à n'en plus finir qui font de la Tunisie le théâtre d'action facile. Donc la presse, elle en fait ses choux gras et elle appelle à une journée de colère et au port d'un brassard noir, conjointement avec ENADA, le mouvement de la Renaissance, donc un parti islamo-conservateur, voire un parti de musulmans démocrates, mais aussi d'autres formations politiques d'importance et l'ordre des ingénieurs. Donc à l'heure actuelle, il y a 8 interpellations aux dernières nouvelles qui ont été effectuées et une journée de deuil à Gaza qui a été décrétée puisque le Hamas affirme que Zouhari travaillait pour la résistance depuis 10 ans. Donc ça rappelle des précédents où Israël a fait assassiner plusieurs membres de groupes activistes, notamment Khalil Al-Wazir, qui était le numéro 2 de l'OLP et qui a été assassiné en 1988 à Tunis. Donc ces ingérences d'Israël dans les pays arabes, c'est malheureusement pas une nouveauté, pas plus que la haute considération de cet État pour le droit international. Donc l'actualité d'Israël, c'est aussi une vaste entreprise d'enfumage à destination de l'Occident pour essayer de nous faire croire qu'Israël n'est pas qu'une vieille et impitoyable puissance coloniale et guerrière. Donc en l'occurrence, c'est les négociations pour qu'une colonie dite sauvage soit déplacée puisqu'elle contrevenait au droit israélien. Donc ça fait bien marrer d'entendre le terme de colonie sauvage. Parce que s'il y a des colonies sauvages, que deviennent les autres colonies ? Est-ce qu'elles sont naturelles, légitimes ?
Civilisées ?
Civilisées, on ne sait pas.
Dompté.
Voilà. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ça concerne 40 familles qui résidaient dans ce qu'on appelle un avant-poste, donc dans les territoires occupés à Amona en Cisjordanie. Et sur ces 40 familles, 24 ont été, entre guillemets, relogées, parce qu'en fait, elles ont été déplacées de quelques dizaines de mètres. Donc il faut savoir qu'en Cisjordanie, il y a quand même 380 000 de colons juifs, et que Netanyahou, il flippe beaucoup de mécontenter la base nationale religieuse, pour qui, il faut le rappeler quand même, la Bible est le seul et unique support du droit international et de la vocation d'Israël. Donc dans cette histoire, évidemment, hein, selon l'ONG Yajdin, qui veut dire « ici la loi », la solution qui a été trouvée par le gouvernement de Netanyahou, elle est illégale, immorale et déraisonnable, car un des lots qui a été retenu pour accueillir les familles qui squattaient déjà la propriété de Palestiniens, eh bien, appartient toujours à un propriétaire privé palestinien. Donc Netanyahou, il faut savoir qu'évidemment, il est obligé de dire, et il le dit, qu'il aime les colonies, qu'il a de l'amour pour les colons, mais qu'il y a quand même... ce qui se tient. D'accord, mais bon, il est obligé d'expliquer qu'il y a des lois.
Un bon colon est un colon.
Très bien.
Il y a des règles. Et donc Netanyahou, il a très très peur d'être débordé sur son extrême droite. Et il doit composer avec les fous de Dieu d'un côté et les fachos réactionnaires de l'autre. Et tout ça pour présenter quand même un visage honnête à la communauté internationale. Et donc pour expliquer qu'il allait peut-être mettre un petit frein en colonisation, il s'est rattrapé en disant attention, on va quand même détruire en fait de très nombreuses constructions illégales arabes en Israël, d'accord. Donc il a rassuré les populations en disant qu'il y a de nombreuses constructions arabes illégales qui seraient massivement détruites dans les prochains jours. Donc c'est du genre on vous donne pas tout, hein, mais regardez, on leur met bien sévère aux Arabes quand même, ça reste Israël, il faut pas craindre. Donc le précédent de cet avant-poste d'Amona, c'était le relogement de 8000 colons sur la bande de Gaza, qui était butonnable, hein, qui créait trop d'instabilité. Et du coup, 9 maisons qui devaient être détruites et qui avaient mobilisé énormément de manifestants israéliens d'extrême droite. Et l'armée israélienne avait dû intervenir contre eux, ça avait fait 200 blessés. Et dont des députés, et surtout ça avait fait monter l'extrême droite, ça avait affaibli les bourgeois d'Israël, comme Netanyahou, qui veulent ménager quand même la chèvre, le chou. Et donc du coup, c'est encore une reculade, hein, sous prétexte de respect du droit, qu'il soit israélien ou international. Et donc Netanyahou s'écrase, et au profit de la droite religieuse qui marque des points, encore et toujours en Israël. Donc, comment elle marque des points, et qu'est-ce que ça signifie concrètement ? C'est un projet de loi qui a été adopté en première lecture à la Knesset et qui tente de légaliser tous les avant-postes du type de Noa. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la Cisjordanie ? Eh bien, c'est une annexion définitive de ce qu'ils appellent la zone C, donc c'est à peu près 60% de la Cisjordanie, qui passerait du statut de terre occupée à terre annexée. Donc, évidemment, sous l'administration Obama, c'est pas vraiment possible. Donc ils rongent un peu leurs freins en espérant que...
Ça va arriver sous Trump, on va en parler après.
Que Trump donnera le feu vert à cette injustice.
Alors du côté du Royaume-Uni, la grève s'étend. Donc à la suite des employés du rail et de la British Airways, c'est les postiers qui ont entamé une grève de 5 jours. Donc ils sont 3500 membres du syndicat CWU. Donc entendre Communication Workers Union.
Yeah.
Et donc ils sont mis en grève contre les réductions d'effectifs et une réforme de leur régime de retraite. Pour info, les Britanniques, ils s'en prennent quand même plein la mouille depuis quelques temps sur les mesures d'austérité. Donc là, ça tombe plutôt bien parce que la période de Noël, particulièrement pour la Poste, c'est la période la plus chargée de l'année. Du côté du rail, c'est la RMT qui a annoncé une grève et qui bloque les passagers, plus de 300 000 passagers entre le sud de l'Angleterre et Londres. Donc on imagine que ça peut
foutre un beau bordel en période de Noël. Et par ailleurs, les membres de 15% des effectifs de British Airways ont voté la grève pour le jour de Noël. Donc on espère qu'elle tiendra et que les camarades britanniques seront victorieux et qu'ils gagneront ce bras de fer contre le gouvernement particulièrement réactionnaire qui se tape ces derniers temps.
Et du coup, on repart du côté de l'Afrique et on part du côté du Cameroun, où l'envoyé spécial que j'étais au Cameroun va vous raconter un peu comment ça s'est vécu, cette catastrophe ferroviaire qui s'est passée là-bas. En fait, il y a eu un sacré problème au Cameroun, c'était que la route entre Douala, capitale économique, et Yaoundé, capitale administrative, a été coupée. Ce qui fait que, en toute logique, ils ont affrété sur les trains entre les deux villes, ils ont affrété des wagons supplémentaires sans forcément mettre une locomotive de plus. Donc le 21 octobre se passe une catastrophe ferroviaire d'importance, le train déraille en gare des Écas et bilan officiel 79 morts, 500 blessés. Quand on se rend sur place au Cameroun, qu'on pose un peu la question, bon c'est vrai qu'il faut se rendre là-bas pour savoir un peu comment ça s'est passé, on se rend compte que le bilan n'est pas du tout le même. Et pour cause, on parle de 500 blessés et de environ 500 morts. Le problème, c'est que les 500 morts, on ne sait pas trop où ils sont passés. Et la plupart d'entre eux ont été enterrés dans une fosse commune. Alors, le problème qui se passe au niveau de ce truc de Chemtrail, c'est que, comme vous le savez très bien, c'est Bolloré qui détient en fait le monopole du chemin de fer. Donc il a été privatisé en 99. Bolloré, donc le groupe, a racheté tout ça pour un bail de 35 ans. Il n'a pas racheté que ça, il faut savoir que c'est l'opérateur principal en fait du port, avec un bail de 20 ans également. Voilà. Alors, pour en revenir à cette histoire de train, le problème qui se passe, c'est que sur les 500 morts que dénombrent à peu près les gens, la plupart d'entre eux, on ne les retrouve pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été enterrés dans une fosse commune. Donc, ce qui veut dire que, bon, bah, y a des disparus, on ne saura jamais où ils sont, s'ils sont partis, s'ils sont dans cette fosse. Qu'est-ce qu'il en est ? Le plus problématique dans tout ça, c'est que Bolloré a été finalement acculé et a dû s'engager à verser une indemnisation pour les personnes qui sont mortes, justement, à hauteur de 1 million de francs CFA. Alors ouais, ça fait un gros chiffre, sauf que 1 million de francs CFA, c'est 1500 euros. 1500 euros pour quelqu'un qui est mort, et pour quelqu'un qui est mort, mais dont on sait qu'il est mort. C'est ça le problème. Parce que la plupart, en fait, on ne sait pas, et ils se retrouvent enterrés dans cette fosse commune. Bref, en gros, Bolloré, c'est quoi ? C'est je fais de la thune, je fais du profit, et puis le reste, j'en ai rien à foutre. La vie des gens, j'en ai rien à faire, etc., etc., etc.
Et combien de morts
On dit 79 morts sus.
D'accord.
Et en fait, au Cameroun, quand on pose la question, ils parlent de 500 morts minimum. Il devait y avoir 1500 personnes en fait, dans ce train, sachant qu'il y avait 9 wagons et 17 wagons finalement en tout, parce qu'ils en ont raccroché presque la moitié en plus. Quoi. Et voilà, alors Bolloré, c'était...
Rien à envier au cartel mexicain, quoi.
Ouais, exactement.
Et 1500 fois 79, c'est il paye sa tournée, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc Bolloré s'est engagé à quoi ? Bien sûr, il s'est engagé à l'entretien du réseau, etc. En échange de pouvoir s'occuper d'affréter les gens, etc. Enfin, de s'occuper du train, quoi. Sauf que si on se rend sur place, on se rend très bien compte que c'est pas du tout le cas. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a les petits Chinois aujourd'hui au Cameroun. C'est parce que eux, finalement, ils se mettent à construire les routes, etc. Et ils entretiennent les infrastructures. Donc, juste pour vous donner la petite info, en gros, l'accident, il est survenu dans la matinée. En début d'après-midi, donc vers 14h, il n'y avait aucun secours sur place, toujours. Les premières personnes qui ont commencé à en parler en ont parlé sur Facebook, sauf que quand on en parle sur Facebook, au Cameroun, c'est un peu de la rumeur, donc personne n'y croyait. Et puis, au fur et à mesure, finalement, ça s'est avéré plus ou moins vrai pour les gens. Finalement, les secours se sont rendus sur place. Et voilà, voilà la petite histoire, quoi. Bref, 1 million de francs CFA, 1500 euros, en gros, pour un mort. Et faut-il encore l'avoir retrouvé ? Vive Bolloré, vive la France-Afrique.
Donc, Toujours dans la catégorie impérialisme sauvage et sans pitié. La presse nous bassine aujourd'hui de l'indignation américaine et de l'administration Obama qui accuse Franco-Poutine de les avoir espionnés, de les avoir manipulés et même de les avoir fait paumer. Donc en gros, c'est le Clinton Leaks a été orchestré par les Russes qui ont posé dans le bon timing des révélations compromettantes et qui auraient fait chuter la cote de popularité de Clinton qui, comme on le savait, était très très haute. Donc Poutine, ça le fait marrer, comme d'hab, lui il en a rien à foutre. Et il trouve même ça indécent qu'on l'accuse sans preuve. D'accord ? Si on amène des preuves, là, ça sera à la régulière et on négociera. Donc, faudrait quand même arrêter de faire les étonner. Hein. L'impérialisme, la guerre informatico-économique, la NSA, Snowden, qui est hébergé où ça ? Enfin, Russie. Faut pas oublier que ça existe, que les États qui ont été qualifiés de plus froids, des monstres froids par certains philosophes, sont vraiment des machines qui visent à contrôler et à dominer, et qu'ils le font 24 heures sur 24, depuis plusieurs centaines d'années, et que toutes ces dynamiques-là se renforcent avec le surarmement, le surcontrôle, et on peut le dire, les délires militaristes de plus en plus affirmés de nos dirigeants impériaux. Donc on va enchaîner sur cette Amérique indignée qui veut redevenir grande.
Et elle redevient grande grâce à un certain Donald Trump, nouvellement élu président des États-Unis. Et Donald Trump est en train ces derniers jours, ces dernières semaines, de constituer son administration. Et son administration est bien constituée de bons blancs, richissimes, traditionnalistes, catholiques, protestants, bien fachos sur les bords. Alors je vais vous en faire un petit listing, pas l'intégralité, mais il y en a quand même qu'il faut mettre en avant, c'est important. Donc à l'environnement, on a un certain Scott Pruitt, climato-sceptique, convaincu, donc qui considère que le productivisme industriel et agricole ultra-gore n'est pour rien dans le réchauffement climatique et même que le réchauffement climatique est une vaste fumisterie. Il est pour le développement à fond les ballons du gaz de schiste, s'accaparer le pétrole au Moyen-Orient et ailleurs le plus possible, le charbon, etc. Donc ça, c'est pour l'environnement. Bon, non pas que les États-Unis étaient auparavant très au fait de tout ce qui concernait l'environnement. On peut pas dire ça, mais en tout cas, on va vraiment dans un sens bien plus gore que d'habitude.
Donc en fait, les mêmes...
Al Gore.
Il y a un truc important que j'ai pas compris. Les mêmes qui ont enterré les autres dinosaures pour nous enfumer et nous faire croire que c'est pas Jésus qui avait créé le monde en une semaine, c'est les mêmes qui nous ont fait leur délire de réchauffement climatique, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça. Ça se tient en même temps.
Bah oui. Bon.
On continue. Éducation nationale. Betsy DeVos. Alors, une milliardaire. Bon, quand même, l'éducation nationale, ça se tient.
Pour acheter voilà.
Idéologue.
Elle était à l'école, au moins.
Elle a été allée, c'est sûr, probablement dans des bonnes écoles privées. Idéologue de la droite ultra-conservatrice, donc catholique intégriste, hostile totalement à l'école publique et mécène d'organisations chrétiennes radicales, mais une grande mécène. Hein. En même temps, elle a suffisamment de pognon pour être une grande mécène. Ça, c'est pour l'éducation nationale. Bon courage pour l'école publique. La justice, alors, ça, c'est peut-être le plus drôle. Jeff Sessions, ancien penseur informel du KKK, le Ku Klux Klan, mais oui, pendant plusieurs années... Raciste donc, opposé à toute régularisation des sans-papiers, opposé à l'avortement, au mariage homosexuel, pour l'incarcération de masse des personnes condamnées pour trafic de drogue, notamment, j'en passe et des meilleurs, allez voir Jeff Sessions sur internet, c'est vraiment surpuissant, et ça c'est la justice américaine. Au travail, un certain Andrew Pusdair, ennemi le plus total des travailleurs, patron millionnaire du groupe de fast-food CKE Restaurant, contre la hausse du salaire minimum, pour la réduction des coûts des entreprises et de leurs réglementations, pour l'exonération fiscale patronale, j'en passais des meilleurs, les travailleurs américains vont pouvoir subir avec joie ce nouveau ministre du Travail. Et pour terminer, c'est la petite perle, et donc on en vient à un sujet qu'on a un peu développé tout à l'heure, la nomination en tant qu'ambassadeur d'Israël d'un certain David Friedman. Alors, ce certain David Friedman est activement engagé auprès de l'extrême droite israélienne. Donc finalement, l'extrême droite israélienne ne peut que se frotter les mains, tout comme Netanyahou. Il défend la colonisation illégale de la Cisjordanie, la plus totale, donc son annexion à terme, compte déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, rien que ça. Et vu qu'il est également richissime, il finance les implantations en Cisjordanie et appartient au mouvement des colonies et des colons. Voilà, donc on pourrait pas dire que les States auparavant avaient des ministres qu'on kiffait, surkiffait, mais là c'est vraiment l'extrême droite bien blanche, millionnaire voire milliardaire au pouvoir, ça craint.
Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, il s'est fait élire en disant non, mais on va arrêter la finance, les gens riches, machin, tout ça, il faut le pouvoir au peuple. En bon populiste, et qu'est-ce qu'il fait derrière ? Bim ! Allez, je te mets des milliardaires.
Voilà.
Mais j'ai entendu, je sais plus où, mais que la Californie organise un référendum pour essayer de faire sécession.
On accueillera avec plaisir tous les réfugiés américains, les réfugiés politiques américains.
C'est ça.
On va terminer avec l'Europe, avec le gouvernement allemand accusé de censure. Bon, ça doit être régulier, mais cette fois, ça c'est avec la suppression de plusieurs passages d'un rapport sur la pauvreté qui est publié tous les 4 ans outre-Rhin et qui est très attendu par la population parce que ça fait des gros titres de presse comme, en l'occurrence pour cette fois-ci, 16 millions de pauvres, la honte. Plus de 4 millions d'Allemands surendettés, la honte, les inégalités se sont creusées, il y a plus de 30% de millionnaires en 4 ans, mais un Allemand sur 5 ne possède rien du tout, donc la honte. De toute façon, c'est ce qu'on observe dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays. La différence, c'est que le rapport en question tirait des conclusions politiques. Et c'est ces conclusions qui ont été du coup censurées, virées du rapport par le gouvernement. Mais il y a eu un leak, et du coup, on va juste vous énumérer les... Donc, en fait, le rapport, malgré qu'il a été fait par des gens suffisamment complaisants, je suppose, mais il disait quand même que plus on est pauvre, moins on vote. Et donc, du coup, les partis, ils s'en fichent de séduire l'électorat pauvre, puisque finalement, c'est un électorat qui s'abstient. Il disait aussi qu'une réforme a plus de chances d'être adoptée si elle est favorable ou soutenue par des riches. Il disait aussi que les décisions prises favorisent les plus aisés et que la crise de la représentation, et que ça entraîne une crise de la représentation politique. Bon, c'est pas des choses qu'on ignore, mais bon, c'était quelque chose qui était public et voilà. Donc, bien sûr, censuré par le gouvernement. Merci les Allemands, vous êtes comme les Français, pas mieux, pas pire.
Eh ben, on va passer au national maintenant. Avec un mouvement de grève, encore un mouvement de grogne, un mouvement de protestation, c'est celui des VTC. Donc, à l'heure où on vous parle, le secrétaire d'État chargé des transports, il n'y a plus ministre des transports aujourd'hui.
Ah non.
Hein,
tu vois, c'est le secrétaire d'État. Voilà, ministre de l'Intérieur, c'est vachement plus important.
C'est ça. Ouais.
Un coup de flashball.
C'est avec les sociétés privées.
C'est un peu nul d'être ministre des cars, quoi.
Ouais, il faut mieux être
pour Macron.
Il faut mieux être ministre de la marche. Mmh. Et donc du coup, le secrétaire d'État chargé des transports, un certain Alain Vidalis, tient au moment où on parle, hein, c'est l'actualité chaude, là, ça se passe là.
Yeah.
Et ils sont en train de tenir une réunion de sortie de crise. Entre les responsables syndicaux des 10 VTC et la vieille boîte scélérate Uber, application en ligne qui permet de baiser la gueule à tout le monde. Donc ces derniers...
Entre autres choses.
C'était un raccourci. Donc ces derniers nous font savoir qu'Uber, ils rognent les marges hein, et puis qu'ils arnaquent et le client et les travailleurs. Donc ces manifestants, ils en ont gros sur la patate et ils sont super motivés. Et ils réclament carrément la fermeture des plateformes Uber et la mise en place de quelque chose de plus équitable, issu de négociations entre les différentes parties, c'est-à-dire les utilisateurs, les travailleurs et ceux qui seraient amenés à gérer ces plateformes. Donc plus précisément, l'UNSA, l'Union des syndicats autonomes, le syndicat des chauffeurs privés et les CAPA VTC, Il s'élève contre des commissions excessives, la déconnexion abusive et arbitraire des chauffeurs par la plateforme et l'humiliation constante qu'il doit subir. Du coup, blocage, notamment autour de l'aéroport d'Orly, et qui sont évidemment, comme tous les blocages, hein, et qui sont la seule façon de se battre efficacement, et ils sont condamnés très fermement par le gouvernementeur des socialos traîtres. Nouvelle mouture, Cazeneuve le dur. Dont acte. Condamné fermement, 6 conducteurs en garde à vue, 3 pour violence, ce qui n'est pas bien, et 3 pour violence envers des policiers, ce qui est vraiment,
moins bien.
Vraiment pas bien. D'accord, vous savez qu'à Radio-Canyon,
on
condamne
fermement les violences à l'égard des
policiers. Exactement, d'accord.
C'est pas bien.
Petite parenthèse, il y a encore un policier qui s'est suicidé dans la gendarmerie. S'il vous plaît, les gars, avant de faire ça, avant de vous suicider, allez voir des gens, allez causer, exprimez-vous, rejoignez les gens qui vous aiment, et voilà, il faut démissionner, et voilà, il faut vivre, il faut espérer. Il y a de l'espoir en dehors de la police.
C'est le plein emploi à côté, venez.
C'est ça, il y a de l'espoir, il faut qu'un jour les policiers nous rejoignent, c'est vrai, on ne peut pas que les critiquer. On vous appelle, messieurs les policiers.
Point trop d'infos, néanmoins.
Voilà, d'accord. Voilà. Donc, Hubert a porté plainte, d'accord, pour défendre les policiers et aussi Hubert. Et contre les trois syndicats précédemment cités. Donc, ils les ont attaqués pour diffamation et pour menace, d'accord. Donc, ce qui est assez agréable à remarquer, c'est qu'avec l'ubérisation, tout le monde avait prédit qu'il n'y aurait plus de mouvement syndical, que les travailleurs seraient totalement atomisés. Et que donc, ça serait la victoire du capital à travers la cybernétisation du contrôle et des travailleurs. Et ben là, on voit que non, on voit que les mecs.
Ils s'organisent.
Alors, les mêmes jaunes qui avaient trahi les taxis, ils sont encore à l'œuvre et on voit des petits conducteurs qui disent oui, mais moi je voulais travailler, on m'en a empêché. Mais c'est quand même une grosse grogne, d'accord ? C'est des travailleurs qui réclament leur dignité et qui vont jusqu'au bout. Bravo les gars, on espère que vous allez vite sortir. Et abat Uber, abat le capitalisme, abat la cybernétique qui veut contrôler nos vies.
Et vive la grève.
Ouais. Et puisque vive la grève, on va parler d'une autre grève qui a lieu chez un sous-traitant de PSA, l'entreprise MC Syncro à Chanteloup-les-Vignes, qui assemble les roues pour l'usine PSA de Poissy. Donc ils sont en grève depuis 15 jours, grève dure, reconductible. 22 salariés sur 48, dont, et c'est là la spécificité de cette grève, 6 intérimaires. Comme le souligne le délégué CGT d'MC Syncro, ce n'est pas parce qu'on est intérimaire qu'on ne peut pas faire grève. Et ça, c'est bien de le souligner, puisque généralement, les intérimaires ont beaucoup de mal à faire grève. Et c'est pour ça qu'on va développer un tout petit peu cette grève. Cette grève, elle est partie de revendications salariales, d'abord, pour des hausses de salaire, sachant qu'MC Syncro, c'est 10,2 millions d'euros pour ses actionnaires. Mais très vite, cette grève s'est élargie. Dans les premières revendications, maintenant, il y a l'embauche des intérimaires, leur cédéisation, leur titularisation, puisque ces intérimaires, comme dans beaucoup d'entreprises, servent de véritables bouche-trous et sont précaires. Ce mouvement, il est en préparation depuis le mois de juin et il se base sur une victoire salariale d'un mouvement qui avait été assez dur aussi en 2010 dans cette même usine. Une caisse de grève a été mise en place pour soutenir les intérimaires dans leur grève, qui évidemment ont des faibles salaires, donc c'est très important de les soutenir. Ils sont H24 sur des piquets de grève, ils tournent toute la nuit, toute la journée, ils n'arrêtent pas. Sachant que la direction de PSA Poissy a fait venir 9 salariés de Belgique et d'Allemagne, ce qui est illégal, pour remplacer les grévistes, et qu'une requête est en cours au tribunal administratif. Elle a été déposée contre la direction de MC Syncro et PSA Poissy. Le rendu du jugement sera le 3 janvier, donc bon courage les gars pour cette grève et bon courage les intérimaires. Ouais,
c'est
bravo.
Ça, tous les intérimaires. Tous. Intérimaires du monde entier.
Tous. Unissez-vous.
Unissez-vous avant.
Alors, on va un peu plus au sud. Vendredi soir, comme vous avez dû le voir, il y a 5 membres présumés de l'ETA qui ont été interpellés à Louossoa. Donc, c'est une petite bourgade entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, pour ce faire, ce ne sont pas moins de 4 corps de police qui ont été mobilisés. Donc, le désormais incontournable RAID, la BRI de Bayonne, la police technique et scientifique et le service de déménage. Donc bien sûr notre désarmée Célèbre ministre de l'Intérieur Bruno Leroux s'est félicité de l'opération qui a permis de trouver de nombreuses armes d'explosifs et de munitions, donc on ne sait pas très bien combien. Ce qu'on sait surtout, c'est que parmi les interpellés, c'est surtout des membres connus en fait de la société civile basque qui avaient prévu et annoncé préalablement qu'ils allaient participer au désarmement justement de l'ETA, non pas en tant que membre de l'ETA, mais en tant que membre de la société civile. Il avait annoncé notamment avec une lettre ouverte sur un média basque. Et ils ont été interpellés vendredi soir à 20h45. Et tout ce petit monde a donc passé la nuit à la PJ, même le week-end, à la PJ de Bayonne avant de rejoindre le parquet antiterroriste. Quand on connaît les conditions de détention en garde à vue pour antiterrorisme, en général, c'est assez sportif et les droits de la défense sont la plupart du temps entièrement bafoués. Du coup, bon, déjà, on leur souhaite bien du courage parce qu'en ce moment, ils sont en train de pourrir dans les pire geôle de l'État français, hein, les gardes à vue pour antiterror, c'est le pire que l'État ait trouvé quand il se sent en danger à ce point-là. Donc, comme je disais, parmi ces interpellés, il y en a deux qui avaient signé une lettre annonçant leur intention. Et sinon, les autres, c'est des journalistes, des spécialistes de l'image, enfin voilà quoi, c'est vraisemblablement pas des profils de militants de l'ETA comme ils voudraient nous faire croire qu'ils ont arrêté. Donc ils ont reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques, notamment la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, ou le Max Brisson, qui est au conseil départemental au MoDem.
Ouh.
Et non, parce que tout le monde s'insurge de ce coup porté au processus de paix dont l'État veut pas, en fait, hein, depuis toujours, que ce soit l'État espagnol ou l'État français. Le processus de désarmement de l'ETA, ça les intéresse pas tellement, parce qu'en réalité, l'ETA, même s'ils ont arrêté la lutte armée depuis 2011, ils refusent de rendre les armes tant qu'ils n'ont pas de garantie sur les 400 détenus de l'organisation qui pourrissent encore. Alors, la plupart en Espagne, ils sont 90 en France encore maintenant.
Et dans des conditions très détestables, bien pire que beaucoup d'autres
prisonniers. Souvent à l'isolement.
Ils ont été brocardés par Amnesty International il n'y a pas longtemps à ce sujet.
Et donc souvent à l'isolement. Donc en fait, depuis 2011, l'ETA a abandonné la lutte armée, mais refuse de rendre les armes parce que les deux États, espagnols et français, refusent la moindre négociation concernant tous ces prisonniers politiques. Donc là, c'est une initiative de la société civile basque. Alors bien sûr, notre adoré Bruno Leroux a expliqué que, je cite... non, c'est pas ça. Je vais trouver ma citation. Non, bah en gros, il a expliqué, voilà, personne n'a le droit de se proclamer destructeur d'armes et éventuellement de preuves. Pourquoi détruire des armes si elles ont servi à commettre des faits graves, peut-être même des attentats. Donc ça explique la situation de blocage qui a maintenant plus de 5 ans avec l'ETA et le fait d'interpeller 5 personnes vraisemblablement pas du tout membres de l'ETA en plus, histoire d'expliquer à quel point l'État français lutte contre le terrorisme sous toutes les formes qu'elles soient, et notamment le terrorisme qui n'est pas armé, comme c'est le cas de l'ETA depuis 2011.
Ou comme Greenpeace qui vient de se faire perquisitionner.
Voilà. Mais on est contents sur la sécurité quand même.
Oh non, on est bien.
Oui.
On est safe.
C'est à moi ? Non, c'est à toi ?
Ah,
c'est à... Oui, c'est à toi.
Qu'est-ce que je fais ?
Contrat géant pour 12 semaines.
Ah, bon, bah super, bah, la France, hein, toujours. Donc la France éternelle, la France lumineuse, qui se gausse, qui exulte, qui bande, hein, on peut le dire, parce qu'ils ont vendu des sous-marins d'attaque pour 35 milliards de dollars et que ça va sauver 3 ou 4 000 emplois. Donc on fait court, on fait vite, une fois de plus encore. La France rayonne, elle rayonne tellement que c'est vachement étonnant que la moitié du monde n'ait pas des coups de soleil aujourd'hui. Merde.
Et bon, bah c'est à moi. Alors moi, je vais vous parler du nucléaire. Mais en fait, comme je n'ai pas préparé ce sujet, bah du coup, on ne va pas en parler. Qu'est-ce qu'il fallait dire sur le nucléaire ?
Bah, qu'il y a eu une tentative d'un bon paquet de pays de l'ONU de pondre une résolution qui condamne la bombe nucléaire. et la dissuasion nucléaire et qui invite les États potentiellement ultra-criminels à renoncer à la bombe nucléaire.
Tu le fais vraiment bien, on se croirait à l'ONU.
C'est ça, et que les Français en tête de ligne ont dit non, non. Non, la bombe nucléaire, c'est génial.
Hein. Ça peut servir.
Ça peut servir.
C'est le bébé de la France, quand même, la bombe nucléaire. Hein.
C'est ça.
Merci Charles de Gaulle.
Ça peut servir.
En Polynésie française.
C'est une tradition, il ne faut pas perdre les traditions, quand même.
Exactement. Ouais. Exactement.
Surtout à l'approche de Noël. Ouais.
Donc la France, hein, comme on dit, qui rayonne radioactivement. Elle, radioactive.
Et du coup, alors pour revenir un peu rapidement sur l'affaire Traoré, la famille Traoré, toujours victime de la police, hein, ça ne s'arrête pas vraisemblablement, la machine est lancée. Et, donc la semaine dernière, Bagui et Youssouf, les deux frères de Adama qui s'est fait tuer cet été, ont été condamnés respectivement à 8 mois de prison ferme pour Bagui, et donc avec mandat de dépôt, il est donc aujourd'hui en train de pourrir encore dans les geôles de l'État français.
Pour rien.
Pour rien. Et 2 mois pour son frère, donc avec aménagement de peine. À la suite de ça, vendredi, un lycée de Paris, du 6e arrondissement, Montaigne, qui s'est organisé pour organiser un blocage en soutien à la famille Traoré. On salue l'initiative.
Bravo.
Et le proviseur de ce lycée, vraisemblablement fort sympathique, a donc immédiatement appelé les forces de l'ordre, qui ont donc arrêté 4 lycéens. Et donc il a porté plainte, hein, et donc 4 lycéens ont été interpellés, placés en garde à vue à la suite de cette tentative de blocage. Donc voilà, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent pour essayer de nous empêcher de nous organiser. Je pense que là, l'initiative des lycéens prouve à quel point on est déterminé et qu'on lâchera pas l'affaire face à la répression et à l'état policier.
C'est l'état d'urgence, c'est des lycéens, ça craint grave, ce sont de grands.
Je crois qu'ils étaient membres de l'ET en plus. Hein,
C'est évident,
c'est ça.
Mais ça devient banal.
Et de Greenpeace.
Oui.
Pas de justice.
Pas de paix.
Alors, on continue. Autre info, hein, bien triste aussi. Des mineurs afghans en grève de la faim. En réaction à la décision du Royaume-Uni de refuser d'accepter 19 mineurs afghans sur son territoire, ces 19 mineurs afghans se sont mis en grève de la faim, et certains depuis vendredi soir. Ils sont âgés de 13 à 17 ans, donc être en grève de la faim à 13 ans, je pense que ça doit être vraiment au top. Et sont hébergés depuis le démantèlement de la jungle de Calais dans un CAO, c'est un centre d'accueil et d'orientation pour mineurs dans le Tarn-et-Garonne. Alors un petit point quand même sur ces mineurs, il y en a eu 1900 qui ont été officiellement pris en charge après le démantèlement de la jungle. Sur ces 1900, sachant que les 1900 voulaient aller en Angleterre, seulement 500 ont rejoint l'Angleterre et la Grande-Bretagne, qui, selon les dernières infos qu'on a, ne comptent pas en accepter plus. Donc qu'est-ce qui va se passer pour eux en France, puisque la France, son objectif, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible et le plus discrètement. La plupart sont déjà des Dublin 2, donc vous savez, c'est sans-papiers, c'est migrants qui se font contrôler et prendre leurs empreintes dans un pays de l'Union Européenne, et c'est ce premier pays de l'Union Européenne dans lequel on a pris leur empreinte, où ils peuvent se faire expulser. Et donc là, le ministère de l'Intérieur laisse libre choix aux préfectures d'appliquer le Dublin 2, donc l'expulsion dans un pays de l'Union Européenne, ou non, et les autres peuvent accéder à des démarches expéditives de demande d'asile. Quant aux CAO, ils sont provisoires. Évidemment, ce serait quand même dommage de laisser trop de temps ensemble, trop de mineurs qui pourraient éventuellement s'organiser, se solidariser et trouver de la solidarité dans les différents CAO qui ont été créés et qui resteront provisoires depuis le démantèlement de la jungle. Donc bon courage à ces mineurs qui tentent une grève de la faim. C'est fort et on souhaite qu'ils obtiennent satisfaction de leurs revendications.
Et oui, et place au feuilleton du lundi. Donc, on a eu il y a quelques semaines Kim Kardashian, donc qui a fait votre joie avec toutes ses aventures. Et maintenant, c'est Christine Lagarde depuis quelques semaines.
Dans un autre style.
Dans un autre style, mais finalement pas si éloigné. Donc, ancienne ministre de l'économie et actuelle directrice générale du FMI, qui a été aujourd'hui déclarée, attendez, écoutez bien, coupable. Coupable de quoi? De négligence. Dans l'affaire de l'arbitrage tapis par la Cour de justice de la République ce lundi 19 décembre, donc aujourd'hui même. Donc elle a été jugée pour détournement de fonds publics commis par un tiers et résultant de la négligence d'une personne dépositaire de l'ordre public. Elle risquait donc 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, donc par rapport à un arbitrage qui coûte 403 millions aux finances publiques et rapporte 45 millions à Bernard Tapie. Donc elle risquait quand même 15 000 euros d'amende. Mmh. Mais heureusement, relax. Sur ce point, quand même, on estimait que le recours à l'arbitrage pouvait se défendre à l'époque. Mais la Cour a considéré que le fait de ne pas engager de recours après la sentence arbitrale était extrêmement défavorable aux intérêts de l'État et miraculeusement pour Tapie constituait bien une faute. Et donc déclaré coupable de négligence de ne pas avoir déposé de recours. Mais elle est dispensée de peine. Naturellement, enfin c'est logique quoi, du coup elle est coupable mais dispensée de peine. Et oui, Christine Lagarde s'est bien défendue et c'est pour ça qu'elle est dispensée de peine certainement, puisqu'elle dans sa défense, elle a dit que ses décisions ont été prises avec pour seul objectif la défense de l'intérêt général, qui a été bien entendu la Cour de justice.
Bernard Tapie, voilà. Intérêt général.
Quel foutage de gueule.
CQFD.
Vous trouvez?
Vraiment.
C'est cela.
Mais ce qui est sympa, c'est quand même le côté négligent qui coûte 400 millions à la boutique. Savoir que quand le facteur il oublie de recommander, il risque la porte. Si la caissière elle fait passer deux produits,
elle fait une erreur de caisse,
elle se fait virer. Et là, t'as la nana qui est ministre. Quand
même. Mais elle a quand même de lourdes responsabilités.
Maintenant, ouais,
c'est vrai.
Ouais.
Ah, là, on est content.
Elle s'applique à truander la plupart des pays.
C'est ça. Tonton américain doit être très rassuré de savoir qu'au FMI, il a quelqu'un de négligent. Quoi. Et les peuples africains qui se font spolier. Les peuples.
Par négligence. Par négligence.
Voilà. En fait, c'est. Voilà. Hein, bon.
C'est pas sa faute.
Bon, on va finir par quelque chose qui est moins du foutage de gueule, peut-être.
Ouais.
Non, t'as pas.
C'est ça.
Bah fais ton sujet quand même, ouais. C'est pas grave.
Ah oui. Ah bah oui, bah c'est important. Je me barre 3 semaines au Cameroun et je reviens, paf, tout est chamboulé. Qu'est-ce qui se passe? Cazeneuve, il devient Premier ministre alors qu'il a balancé des bombes lacrymo sur tout le monde. Valls, il devient candidat, du coup il démissionne.
Parce que.
Ah. Très bien. Non mais bon, dans tous les cas, en fait, moi je reviens, je vois quoi? Je vois Manuel Valls qui passe sur France Inter. Je vois ça bien sûr parce que ça a tourné en boucle en fait aussi au Cameroun. Il faut savoir que le Cameroun a les yeux vraiment rivés sur la France parce que tout leur quotidien dépend de la France. Et donc je tombe un jour sur une émission qui parlait de ce fameux moment le 15 décembre où il parlait à France Inter du 49.3 et Monsieur Manuel Valls, je vous le cite, a dit ceci. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide. Virgule. Et puis j'ai appris. Et puis on prend du recul. Point. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée. Et elle apparaît comme brutale. Là, on parle de 6 mois en avant. Non mais le mec, il est schizophrène, hein, je pense. Hein. Enfin, moi, j'hallucine complètement. Il dit, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerai de supprimer purement et simplement le 49.3. Je veux une renaissance démocratique où les citoyens, les collectivités, le Parlement aient plus de pouvoir.
C'est le scandale du siècle.
Et si les députés sont pas d'accord, la suppression du 49.
Se fera pas.
C'est n'importe quoi. On s'est fait balader de partout pendant toute la loi travail et là tout d'un coup pof, il y a les élections, il se dit oh, j'ai peut-être une chance parce que Hollande se présente pas.
Ah, mais t'es trop sceptique.
Plus confiance un peu. Je pense qu'il est bien ce mec.
Il faut donner des secondes chances aux gens aussi. Hein.
Mais pendant la loi El Khomri, il disait il faut aller vite. Je ne veux pas soumettre mon pays à 10 jours de guérilla parlementaire. Cette loi doit être votée avant l'été. Oh mais les mots sont importants. Guérilla parlementaire.
Guérilla parlementaire.
Le débat démocratique, c'est une guérilla parlementaire.
Quand démonte le théâtre au Parlement.
La société participative.
Vous êtes dur quand même avec ce pauvre gars. Ou...
Non mais Valls, arrête. Valls, vas-y, rentre à la maison, là. Va faire du violon.
C'est là où on voit ce à quoi on a affaire. C'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude. Et moi, je dis à tout le monde, n'allez pas voter, faites la révolution.
Voilà.
Oula, la grève, on passe en actu local.
Actu local.
Ouais, c'est les prémices.
Puisque ça fait 4 semaines déjà que les TCL sont en grève. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que Keolis a toujours des bonnes petites techniques pour essayer d'éviter au maximum que la grève impacte les usagers.
Par contre, ça contrôle, hein, pour tous les jours.
Ah oui, ça par contre, ouais, y a pas de souci. Quand il s'agit d'embaucher pour faire des contrôles, il y a du monde. C'est donc on voulait revenir un petit peu quand même sur les raisons de la grève, parce qu'elle n'est pas très médiatisée, alors que ça fait quand même que 4 semaines que les gars sont, suivent la grève, et donc c'est quand même une belle grève. Donc ils remettent en cause le RSE, donc le règlement de sécurité d'exploitation des lignes, qui a été mis en place en juin, mais en fait Keolis, qui est donc la société exploitante de TCL,
filiale de la SNCF,
avait décidé de pour l'euro de reporter l'application de ce RSE au 31 décembre 2016, histoire de s'assurer la paix sociale pendant l'euro et d'éviter que ça soit un gros bordel. Donc là, en gros, à partir du 31 décembre, ce RSE risque d'être appliqué. Donc c'est pour ça que les agents sont en grève. Alors c'est principalement les régulateurs du métro qui sont en grève, donc c'est-à-dire ceux qui sont chargés de réguler les différents métros. Il y a aux heures de pointe, c'est un poste particulièrement important. En fait, ils dénoncent tout simplement les manquements en sécurité de ce nouveau règlement. Alors, en plus de conditions de travail un peu plus dures pour eux, ce qu'ils mettent vraiment en cause, c'est le fait que les régulateurs, ils ne sont plus du tout formés. C'est-à-dire qu'avant, ils bénéficiaient d'une formation de 6 mois avant d'être mis sur leur poste. Maintenant, cette formation dure 5 semaines. Et le RSE prévoit éventuellement de qu'il n'y ait pas exclusivement des régulateurs dans les cabines, c'est-à-dire de confier ces tâches-là à des gens qui ne sont pas du tout formés. Donc, il faut rappeler quand même que Keolis, en novembre, a quand même porté plainte contre un des délégués CGT, donc qui est régulateur, pour avoir dénoncé justement ces manquements à la sécurité. Ce RSE, il a été validé par la préfecture, qui est quand même vachement plus prompte à interdire des manifs sous l'état d'urgence, parce que c'est un peu dangereux pour la sécurité. Donc voilà, ils sont mobilisés depuis 4 semaines. Je pense que c'est bien de leur montrer qu'on les soutient, qu'on n'est pas des usagers agacés, et que ce qui nous agace le plus, c'est que il y a du monde pour nous foutre des amendes, et il y a du monde pour nous fliquer à tous les instants dans le métro, mais que dès lors qu'il s'agit d'offrir à leurs salariés des meilleures conditions de travail, ou même aux usagers
la sécurité,
une sécurité plus grande, il n'y a plus personne.
Parce que concrètement, ce qu'ils demandent, c'est un poste.
Oui, mais surtout, ce qu'ils demandent aussi, c'est que simplement les gens soient formés pour être à ce poste-là, qui est effectivement fondamental pour la gestion des flux, quoi. Donc voilà, courage les gars, on est avec vous, faites la grève, on adore, de toute façon, on ne prend pas le métro. Donc... Voilà.
Bien joué les gars.
Moi, je prends le métro et j'aime bien quand il y a des tickets qui traînent. Bon, bref.
Tu devais parler des vitres.
Ah, c'est les vitres. Alors, les vitres, ah oui, en fait, là, je les vois d'ici. En fait, les vitres de Radio Canu, la nuit de vendredi à samedi cette semaine, ont été fracturées.
Fracassées.
Défoncées. Enfin, voilà, un peu comme à la plume noire il y a quelques semaines. Et donc, on n'en sait pas plus. Donc, c'est un acte de certainement.
Un acte de vandalisme.
Voilà. Est-ce du hasard?
Il se trouve que c'est une radio associative. Voilà.
On peut imaginer quelques farfounets, déambulants.
C'est beaucoup imaginé, hein, la plume noire. Ah oui, c'est vrai que c'était des farfounets. Voilà. On continue avec la tradition, parce que on est bientôt à Noël, et quand même des fois la rubrique tradition, ça a du bon. Il se trouve que l'hôtel de région maintenant est affublé d'une crèche de Noël, une crèche de 14 mètres carrés quand même, qui a été commandé par Laurent Wauquiez. Mais attendez. En France, c'est interdit. En fait, on n'a pas le droit dans les lieux publics d'avoir une crèche. Depuis très longtemps, c'est en rapport avec la loi de 1905, ça a été plus tard mis en application. Mais c'est interdit, sauf, parce qu'il y a sauf si cette crèche a une visée artistique. Et donc, Laurent Wauquiez a commandé à un artiste, donc j'imagine au frais du contribuable, une crèche artistique qui est soi-disant donc légale, mais qui est manifestement artistique, puisque commandé à un artiste, et on peut l'admirer si ça intéresse des gens.
Catholique.
Ça intéresse des gens, il faut aller à l'étoile de région, il y a la crèche catholique de Laurent Wauquiez. Voilà,
artistique.
artistique.
Catholique.
Ouais. Moi, en vrai, j'ai vu une photo, on voit très très mal Joseph là.
Ah.
Ouais.
Ah, c'est encore une provocation. Hein. Les mêmes chantres de la laïcité revancharde qui stigmatisent les musulmans, non contents de nous faire chier, de faire chier
avec
les gens,
le voile,
font de la provoque. Ils font de la provoque. Wauquiez, tu déconnes.
Alors, Wauquiez, il n'est pas spécialement pour la laïcité. Hein. Il est plutôt affiché. Hein. C'est...
Mais lui, il est pour tout tant que ça lui rapporte.
Il est quand même représentant de la République.
Bon, et quoi qu'il arrive, Noël approche. Alors,
on a eu le mot République, c'est bien, on peut finir l'émission.
La République ou la fente à tout le monde.
Attendez, c'est pas fini, parce que là, Noël approche. Et Noël, qui dit Noël approche à Lyon, dit tout le monde va se ruer à la Part-Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe à la Part-Dieu ? Eh bien, il y a des gens qui y travaillent, et notamment, il y a des gens qui nettoient tout ce que font les usagers, etc. Il y a des femmes de ménage, et elles ont déjà été en grève pour un certain nombre de choses, parce qu'elles étaient embauchées sans contrat, parce qu'il y avait une surcharge de travail, parce qu'il y avait des salaires inférieurs au niveau conventionnel, parce qu'il y avait de la discrimination syndicale, etc. En fait, elles ont choisi de se syndiquer à la CNT, Solidarité Ouvrière, pour faire valoir leurs droits.
Bravo.
Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La SAMSIC et finalement aussi les gens de la Part-Dieu, la dame qui gère la Part-Dieu, en fait, eh ben, ils ont décidé quoi ? De licencier en fait, la déléguée syndicale. Voilà. Et là, on se dit, mais dans quel monde vit-on ? Franchement. Et donc, le jeudi, ça sera un jeudi, non ? 22 décembre. Et bien, il va y avoir de nouveau, peut-être, quelque chose à la Part-Dieu. On vous invite à y aller.
Ouais, 17h, vous pouvez demander des informations autour de vous si vous connaissez des gens un peu investis dans des choses.
Il faut être présent.
Il faut être présent. Part-Dieu, 17h, le 22.
Ouais, il y avait eu un petit shit-in. Il y a quelques semaines à ce propos, et elles avaient quand même obtenu choses.
Leur première augmentation ever.
Voilà, du coup, je pense que c'est cool d'y être jeudi.
En général, il y a une bonne ambiance.
C'est ça. Tout le monde y va au moins un moment à la Part-Dieu, pour une fois, que ce soit pour soutenir des gens courageux
et
qui marrent,
faire, voilà,
qui travaillent.
Et attention aux vigiles, hein, qui sont quand même un peu.
Mais qui vont y passer. Qui vont y passer
avec
aussi,
certaines personnes.
Qui vont y
avec certaines personnes.
Qui vont
soyez
y passer.
Solidaires,
toujours les mêmes.
Ah bon, bah on a été content de vous faire l'information mondiale extraterrestre. On vous dit à lundi prochain.
De joyeuses grèves.
Voilà, joyeuses grèves.
Surtout longue vie aux grèves.
Oui. Et puis là, on est.
Nickel, hein.
Ah ouais, bien. Ciao les gars. Ciao, ciao.
Alors moi, je suis content. C'était une bonne chose.
On vous souhaite de joyeuses non-fêtes ou de non-joyeuses fêtes. Enfin, on vous souhaite du bon temps avec les gens que vous aimez. Et puis le reste. Faites la révolution.
Et puis là, on laisse la copine qui va vous balancer du gros métal, parce qu'il faut s'amuser quand même, hein, parce que merde, il y en a marre.
Si la chaîne veut bien.
Si la chaîne veut bien. Bon.
Vous pouvez parler en 4 minutes.
Ah, et ben
non, on a une petite info,
on va
un
faire
petit
un
braquage.
Groupe de métal, on va faire un groupe
Breaking
de métal.
News.
On va faire
news.
Un
groupe de métal. J'ai une petite info qui date de
qui vient de tomber. Hein,
là, qui vient de tomber, mais à l'instant, c'est dans l'oreillette, on l'a dit direct. Et ouais, parce que les locaux administratifs du Crédit Agricole à Lyon, eh ben, se sont fait cambrioler, dites-vous bien. Et nous, comme on aime bien les cambriolages, et surtout des banques, eh ben, on en parle, parce que pour faire la révolution, il faut de la thune. Donc, ça a été un vol par effraction. Peu avant midi, le système d'alarme s'est déclenché suite, dites-vous bien, à la destruction.